Les opinions.
Les actualités Cogeco Nouvelles.
Jeudi 8 mai, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon midi, mesdames, messieurs. D'abord, c'est maintenant confirmé. Les États-Unis ont conclu un important accord commercial avec le Royaume-Uni, le premier du genre depuis le début de la guerre tarifaire initiée par Donald Trump. Philippe Bonneville, le président américain, vient d'affirmer que l'entente est très bonne, et ce, pour les deux pays.
Oui, Donald Trump qui qualifie cet accord de complet et de total, alors qu'en vérité, il y a encore beaucoup de détails à régler, mais en gros, le Royaume-Uni accepte d'ouvrir son marché à de nombreux produits américains, notamment pour des produits agricoles. De son côté, les États-Unis accepteront notamment que 100 000 voitures construites au Royaume-Uni puissent être vendues aux États-Unis avec un tarif de 10 % plutôt que 25. Donald Trump était visiblement fier de cette entente, qui est excellente, dit-il, pour les deux pays.
I think that it's a great deal for both parties. It opens up a tremendous market for us and it works out very well.
Les Britanniques semblent très heureux aussi. Le premier ministre a parlé d'une journée fantastique et historique.
Merci Philippe. Chez nous, Québec modifie le mode de rémunération des médecins en introduisant des objectifs de prise en charge des patients. Louis Lacroix, le ministre Christian Dubé, veut s'assurer que chaque Québécois est un médecin de famille.
Oui, il y a actuellement 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille et pour s'assurer qu'ils soient pris en charge, Québec va régionaliser l'affiliation à un GMF un peu à la manière du système scolaire. Alors, en priorité, il y aura les 580 000 patients qui sont considérés comme vulnérables. Et pour encourager les médecins à le faire, le mode de rémunération sera modifié pour introduire la capitation, c'est-à-dire qu'ils recevront un montant per capita pour la prise en charge. Mais comme l'indique le ministre Christian Dubé, on va aussi introduire d'autres modes de rémunération.
La rémunération par capitation, une rémunération à taux horaire et une rémunération additionnelle pour certains actes.
En surplus, on met en place un supplément incitatif qui peut aller jusqu'à 25 % de la rémunération pour favoriser la prise en charge de patients. Actuellement, 83 % seulement des Québécois sont pris en charge par un médecin. L'objectif, c'est 100 % d'ici un an.
Merci, Louis. Le gouvernement du Québec pourrait devoir payer jusqu'à 450 millions de dollars de plus en intérêts seulement sur ses emprunts à la suite de la baisse de la cote de crédit du Québec par l'agence Standard & Poor's. Le porte-parole libéral Frédéric Beauchemin s'en est insurgé. Le débat a dérapé après une attaque du ministre Éric Girard, ce qui a provoqué l'intervention des deux leaders parlementaires adverses, Moncef Déragi et Simon Jolin-Barrette.
Savez-vous c'est combien d'écoles, ça, 400 millions de dollars, Madame la Présidente? C'est 9 écoles. 9 écoles qu'on n'aura pas à cause de la mauvaise gestion caquiste.
Oui, Madame la Présidente, mais on peut toujours compter sur le Parti libéral du Québec pour dénigrer le Québec.
Retire ces mots, Madame la Présidente, c'est très simple.
Monsieur le leader du gouvernement.
Madame la Présidente, c'est une critique constructive et qui est établie sur des faits.
La Cour d'appel ordonne un nouveau procès pour Joshua Saruano, qui avait été acquitté en 2023 pour un meurtre commis dans un restaurant du quartier d'Istrente en mai 2019. Le tribunal conclut que le juge Pierre Labrie, en première instance, a commis une erreur importante dans la formulation de ses directives au jury. Il leur avait demandé d'acquitter l'accusé s'il croyait que le tireur avait les cheveux blonds ou s'ils avaient un doute à ce sujet. Joshua Saruano était accusé du meurtre prémédité d'Éric Francis de Souza, âgé de 24 ans. Bill Gates accélère le don de sa fortune. Le cofondateur de Microsoft annonce que l'essentiel sera transmis à la Fondation Gates dans les prochains 20 ans. L'homme de 69 ans indique que la Fondation, qui lutte contre les maladies et la pauvreté, dépensera ainsi environ 200 millions de dollars d'ici 2045. Elle fermera à la fin de cette année-là. Et l'acteur Benoît McGuinness sera celui qui succédera à Denise Filiatro à la direction artistique du Théâtre du Rideau Vert. L'homme âgé dans la quarantaine a une longue feuille de route, tant au théâtre qu'à la télé et au cinéma. Madame Filiatro a occupé ce poste durant 21 ans. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Ici Jean Brisson. Mesdames, messieurs, vous êtes à la recherche d'une bonne résidence pour aînés où l'on prendra vraiment soin de vous ou de votre aîné. Ah ben, vous aimeriez choisir la meilleure résidence de la région du premier coup? Faites le 418-723-0243. La résidence Seigneur Lepage de Rimouski répondra à votre appel et comblera toutes vos attentes. 418-723-0243.
FM 93, toujours au courant. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets polarisants. Si ça fait partie de l'actualité, vous le saurez. FM 93.
Débat. Autrevue. Discussion au cœur de l'actualité.
Le réseau Cogeco Média vous présente
La Commission. La Commission.
Voici Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Bonjour, très bon jeudi, bienvenue à la commission. Bon midi, Luc.
Allô, allô.
Tu as mis ton très beau chandail jacquard. Non, mais vous savez le genre de chandail qu'on porte lorsqu'on est très, très, très âgé et très sage.
Brun pâle, brun foncé, puis jaune oui. Bébé.
Oui, oui. Puis il faut dire que on s'amuse, on se bidonne un peu de... On se fout un peu de ta gueule, il faut dire, lorsque tu portes fièrement ce chandail. D'ailleurs, raconte aux auditeurs, t'es sorti ce matin chercher des trucs à l'extérieur de la station.
Ouais.
Et là...
J'ai accroché le regard de plusieurs dames de plus de 70 ans.
Ah oui, et que disait ce regard?
Mais ce regard avait l'air de dire... Ben, j'étais pas sûr si ça c'était... Est-ce que ça se vend encore? Ou alors, c'était, mon Dieu, ça doit être quelqu'un qui est tranquille à la maison.
Il est bon, Marie, celui-là. Il est tranquille à la maison. Mais moi, c'est un très beau chandail.
Ce qui est la fausse publicité. Hein?
Non, mais c'est un cardigan, en fait. Puis c'est un cardigan qui est très bien notre sujet de 13h05 aujourd'hui, parce qu'on va vous parler des maisons des aînés avec un projet en particulier qui va certainement vous faire bondir, sourciller, peut-être provoquer une certaine colère chez vous. 1,8 million la porte, c'est la maison des aînés de Sainte-Élisabeth. Confirmé en 2022 par la ministre des aînés de l'époque, Marguerite Blais, Caroline Proulx, qui est ministre responsable de la région de la Naudière. Alors, projet annoncé quelque part au printemps 2022. Nous sommes au printemps 2025 et devinez quoi? Le projet n'est toujours pas livré.
Il manquait de vis.
Il manquait de vis.
Écoute, au Rona, le local, il n'y a pas cette sorte-là. Non, mais...
1,8 million la porte.
Bon, alors, il y a donc eu cet éditorial, chronique par Maxime Roy. Maxime, comment il s'appelle, lui? Je l'appelle Maxime Roy, moi, mais c'est Maxime quelque chose d'autre, c'est sûr, en tout cas.
Bergeron,
c'est ça,
oui. De la presse, oui, très bon texte à lire.
Toujours est-il que Maxime a trouvé quand même une information cruciale.
Oui.
C'est que le projet se divise en trois.
Oui.
Un tiers... à peu près, là, un tiers, conception, études d'ingénierie, plans et devis révisés, toute la patente, tu sais. Un tiers, coût de financement, taxes, frais d'administration, puis un tiers, construction.
Ouais.
Fait que, écoute, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre où il faut couper.
Exactement. Puis je vais ajouter une couche à ce que Maxime Bergeron a écrit dans la presse, c'est que le bâtiment, on est parti d'un vieux couvent qui était désaffecté, puis ce bâtiment a été reconnu patrimonial. En fait, on a reconnu le caractère patrimonial au ministère de la Culture et des Communications de ce bâtiment, ce qui fait qu'on a conservé une grande partie du bâtiment pour construire une maison des aînés. Alors, tu comprends que ça ajoute au coût, mais on y reviendra à 13h05 parce que nous avons beaucoup de choses à dire sur le sujet. Bonne nouvelle en débutant cette émission, fini la panne à la SAAQ. Eureka, ils ont trouvé, Luc, avec les employés de Microsoft, la panne est terminée. C'est une excellente nouvelle, mais sais-tu ce qui serait bien, c'est que le PDG de l'organisation prenne la parole aujourd'hui pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment ils ont réussi à régler la panne, parce que je peux te dire qu'il y a beaucoup d'employés à la SAAQ qui en ont ras-le-pompon de passer leur journée à s'excuser auprès des clients.
Ben oui, ça fait partie de leur tâche maintenant.
Et ça fait partie de leur tâche. Et moi, ce qui me fascine, puis j'ai énormément d'admiration pour eux, c'est qu'ils demeurent loyaux à l'entreprise, même s'ils en ont ras-le-pompon de s'excuser. C'est très, très, très difficile pour eux. Et ce que certains, il y a certains employés qui nous ont confié, ils trouvent la haute direction de la SAAQ manque de transparence.
Ben, en tout cas, ils devraient faire preuve de sollicitude parce que quand tes employés sont aux prises avec des situations comme celle-là, c'est eux qui passent pour des caves.
Oui.
Et je me rappelle d'une implantation comme ça dans une entreprise où vraiment les responsables au service à la clientèle, au recouvrement, à la facturation, broyaient leur vie en disant, écoute, ça fait des années que je sers ces clients-là, ça fait des années que je me trompe pas, et là, j'arrive avec un système qui n'est pas capable de répondre aux demandes des clients, en panne, on répond en retard, leur fierté d'employé est touchée, là.
Oui, oui.
C'est pour ça que l'employeur doit dire, je comprends la situation.
Oui.
Et pas juste dire, la panne sera réglée dans 4 jours, là, ça marche pas.
Oui, ça marche pas. Luc, dernière heure.
Oui.
Nous avons un nouveau pape.
Ah.
C'est confirmé, la fumée blanche est sortie. Fumée blanche au Vatican. Oui, voilà, le pape est élu. J'en ai des frissons.
J'en ai
des frissons. Je vous rappelle, 5000 journalistes sont à Rome, place Saint-Pierre. Voilà. Alors, la fumée blanche, souvent, ça aura pris un peu plus,
Écoute, ça a commencé hier, donc c'est quand même, ça a très bien été. Ça a très, très bien été. La plupart des 133 cardinaux n'ont jamais eu une expérience de vote, de conclave. Malgré tout, les choses se sont faites rondement. Mais c'est excitant, c'est très excitant. Il y a plus de 50 000 personnes
sur
la place Saint-Pierre. Nous a confirmé Alban hier, le journaliste.
Tu te rappelles que pour Jean-Paul II, tu te rappelles qu'il y en avait près d'un million parce que la Pologne au grand complet avait débarqué sur la place Saint-Pierre.
Oui.
Ils étaient tellement fiers et à juste titre de l'élection de Jean-Paul II.
Alors là, la grande question, c'est qui a été choisi. Qui est l'heureux élu.
Il y a un nom qui apparaît à l'écran, ça ne doit pas être le bon, c'est marqué J.D. Vance. C'est pas lui, sans doute. Hein?
T'es trop drôle.
Moi, je pense.
T'es trop
drôle.
Il est
fait pour la job. Il a 6 enfants. Ben, ouais. Il y a un pape qui a eu 3 enfants.
Tu connais quelle est la formule consacrée pour annoncer l'élection du pape au monde?
Non.
C'est Habemus Papam. Habemus Papam. Habemus Papam, c'est, je ne parle pas, je le maîtrise absolument pas le latin, mais Habemus Papam,
on avait coutume de croire que ça avait aucune maudite importance parce que la pratique religieuse a tellement diminué dans les pays occidentaux, les pays les plus puissants du point de vue économique. Mais en fait, maintenant, elle en a un peu quand même d'importance parce qu'il y a ce débat à finir entre la droite et les progressistes au sein même du Vatican. Notre intervenant l'autre fois, c'était quoi son nom, monsieur?
Alban Micozzi.
Micozzi nous a dit, impossible que ça soit quelqu'un de gauche ou de droite, ça va être un centriste.
Un centriste,
Sans doute, monsieur Paraline, on verra.
Oui, absolument. Oui, l'ambiance à Place Saint-Pierre, on vous laisse quelques secondes pour entendre tous les gens. Les gens se serrent, se prennent dans les bras, les cloches. Il y a une ambiance festive de fête. Les gens sont très heureux, très, très heureux. On vit ça avec vous en direct. C'est formidable. C'est formidable. Il faut le dire, c'est formidable. Et on rappelle, 1,5 milliard de fidèles sur la planète. Tu disais, Luc, qu'il y a de grands défis à relever pour ce futur pape. La situation financière du Vatican. Il y a énormément d'opacité autour de la comptabilité entourant les finances du Vatican. On ne sait pas trop combien d'argent dans les coffres. L'autre chose...
À la communion, il va avoir de la rationalisation. Quoi? Une demi-hostie? Mais c'est quoi ça? Ah, mais écoute, on coupe. Quand on coupe, on coupe.
Quand on coupe, on coupe. Hey, je te dis qu'avec toi à la tête de la papauté du Vatican, je veux dire quoi, ça, on n'y aiserait pas que la
papauté. Les salles de confesse, là...
Oui.
Dans le milieu de l'église. Il n'y a plus de petites salles confortables. Non.
Oui,
deux chaises, comme Zelensky puis Trump. Là.
Oui. Revenons, Luc, au défi de l'église. Il y a bien sûr la situation géopolitique mondiale. Il y a énormément de conflits sur la planète. Combien d'entre nous craignons une troisième guerre mondiale en ce jour où, Luc, où on souligne le 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne, 8 mai 1945. Oui. On faisait à ce moment-là, c'était officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, je vous en parle, j'ai des frissons. Il y a quelque chose peut-être de très symbolique dans le fait qu'on choisit un nouveau pape le 8 mai.
Ah, penses-tu qu'ils ont fait... non, je crois pas. Hein?
Non, Luc.
C'est une coïncidence.
C'est une coïncidence, mais quelle belle coïncidence. Oui, quelle belle coïncidence.
Oui.
Parce que le 8 mai 1945, dans les rues dans les rues de toutes les villes de l'Europe, on soulignait la capitulation de l'Allemagne. Alors aujourd'hui, c'est un chapitre nouveau qui s'ouvre pour l'Église catholique dans le monde, pour l'histoire du Vatican. Parce que dans les autres défis qui attendent ce nouveau pape, comment intéresser les jeunes à l'Église? Ça, c'est un très grand défi. Juste au Québec, regarde, nos églises sont désaffectées. On cherche quoi faire avec nos églises.
1600 églises au Québec, dont plus de 600 sont maintenant soit fermées ou presque. C'est-à-dire que des fois, elles sont louées pour des communautés religieuses, mais elles ne fonctionnent pas au quotidien. Et dans les défis, il n'y a pas simplement les défis de l'Église, il y a les défis du message de l'Église.
Oui,
aussi,
absolument.
Le message de l'Église de solidarité, de paix, puis aussi sur la famille, là, on sait que c'est un des piliers de l'Église catholique. Le message de la famille, c'est le soutien des deux personnes entre elles, la promesse de procréation, d'une relation qui ne peut être interrompue, ou en tout cas, si elle est interrompue, une des deux personnes doit soutenir l'autre jusqu'à son décès. C'est quand même des messages très, très forts qu'on a l'impression qu'ils appartiennent à une autre époque. Mais peut-être qu'on en aura beaucoup besoin de ces messages. Il y a toute la question des migrants aussi.
Migrants environnement, changement climatique, la guerre dans le monde.
Le dernier pape a beaucoup parlé des migrants.
Oui, oui, absolument. La liste est très, très longue, très, très longue. Luc, d'ailleurs, en 2013, lorsque François a été élu pape,